Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, un passage bien connu. Nous allons lire les 10 premiers versets. Et Dieu voulant, nous reprendrons notre étude de la lettre aux Romains dimanche prochain. Mais aujourd'hui, on va se tourner vers ce deuxième chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on va lire les 10 premiers versets et on va surtout se focaliser sur le verset 7. Éphésiens 2, donc à partir du verset 1, voici la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Pendant ces quelques semaines où nous étions séparés les uns et les autres en vacances, ceux qui sont restés à Châlons, on a passé la plupart des dimanches à regarder ce passage où Paul donc écrit aux chrétiens qui sont à Éphèse, et il commence dans ce chapitre par leur rappeler ce que nous sommes par nature, que nous sommes spirituellement morts, que nous sommes par nature esclaves du péché, esclaves de la chair, que par nature nous étions sous la condamnation de Dieu. Il parle d'être des enfants de colère. Mais quelque chose s'est passé. Et il ne dit pas, vous étiez ceci, mais un jour vous vous êtes ressaisi, vous avez repris les choses en main et que vous avez fait des efforts pour changer. Non, ce qui s'est passé, il dit, voilà ce que vous étiez, mais verset 4, mais Dieu. Voilà celui qui a fait une œuvre. C'est l'œuvre qui est, c'est Dieu qui est intervenu pour apporter un changement. Et quel changement ? Vous étiez mort spirituellement, mais Dieu nous a rendus vivants. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la chair, mais Dieu nous a élevés, traduit ici par ressuscité, mais il nous a élevés dans la liberté de la citoyenneté du ciel. Nous étions condamnés par notre culpabilité, mais nous sommes maintenant assis dans la présence même de Dieu, jouissant de la communion avec Dieu. Et on a souligné la dernière fois que Paul, pour exprimer cela, a dû inventer trois termes pour souligner que tout cela vient avec, grâce à notre union avec Christ. Il a inventé des mots pour souligner cela. Le premier, c'est littéralement rendu vivant avec, rendu vivant ensemble avec. Dieu nous a rendu vivant ensemble avec. Cette expression « rendu vivant ensemble avec » en grec, c'est un seul mot. Et Dieu nous a rendus vivants ensemble avec Christ. Il nous a élevés ensemble avec Christ, traduit ici par « ressuscité ». Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Nous avons cette vie nouvelle. Christ est élevé au ciel, nous aussi. Nous sommes maintenant citoyens des cieux. Nous ne sommes plus citoyens du monde, même si physiquement nous sommes encore dans le monde. Mais nous n'appartenons plus à ce monde. Nous avons été élevés Nous sommes citoyens des cieux. Christ est assis à la droite du Père. Nous aussi, nous jouissons d'une intimité avec le Père. Et tout cela vient à cause de notre union avec Christ. Alors pour beaucoup, cela peut paraître trop beau pour être vrai. Et c'est pour ça que Paul nous donne la raison pour laquelle une telle abondance de bénédictions est déversée sur ceux qui étaient autrefois les ennemis de Dieu, séparés de Dieu. Paul dit au verset 7 que Dieu a fait cela afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La première chose qu'a souligné, c'est que la gloire de Dieu est la raison de notre salut. La gloire de Dieu. Beaucoup de personnes entendent l'évangile et elles vont trouver difficile que Dieu pardonne et renouvelle des pécheurs simplement par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et se demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu ferait une telle chose? La réponse ultime, c'est que notre salut sert à glorifier Dieu pour toujours. Et on a ici une base pour l'espérance, pour l'assurance du croyant qui croit dans la parole de Dieu, mais qui sait qu'il ne mérite pas un tel salut. Et c'est précisément en sauvant des pécheurs de telles personnes que Dieu se glorifie. C'est précisément en aimant ses ennemis que Dieu est glorifié dans notre salut. Et c'est dans ce sens, par exemple, que Paul peut écrire que c'est le plus grand pécheur qui apporte la plus grande gloire à Dieu dans son salut. En Romains 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alors, ce n'est pas une raison pour que nous péchions, parce que le salut, Dieu nous délivre de l'esclavage du péché. Non, c'est une démonstration de la puissance de la grâce de Dieu. Au début de l'ère chrétienne, au début de l'Église, il n'y avait pas de plus grand ennemi de l'Église que l'auteur de cette lettre, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Et Paul ne s'est jamais lassé de souligner combien le salut d'un homme aussi horrible que lui, combien son salut a glorifié Dieu, qu'il était devenu un véritable trophée de la grâce de Dieu, qui était là pour que tous les hommes voient. Il écrit par exemple en 1 Timothée 1, versets 15 et 16, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et c'est la même chose pour chaque croyant. Notre grand péché a été vaincu par une grâce qui est encore plus grande. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On doit réaliser, on ne doit pas perdre de vue que si le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu, c'est pour cela qu'il a été créé, c'est de glorifier Dieu. Mais le but ultime de Dieu est aussi de glorifier Dieu. Le but ultime de Dieu est de glorifier Dieu. Dieu veut que sa gloire soit dévoilée, qu'elle soit connue. Quand on parle de la gloire de Dieu, on veut parler du fait qu'il va révéler ses perfections, qu'il va dévoiler ses attributs. Quand on dit que le but ultime de Dieu, c'est de glorifier Dieu, on veut dire qu'il veut révéler qui il est. Il veut faire connaître ses attributs, faire connaître à tous à quoi il ressemble. Et Dieu est digne d'être glorifié. Quand Dieu désire se glorifier, ce n'est pas seulement quelque chose de bien, c'est encore ce qui est meilleur. Paul écrit en Romains 11, verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. C'est le but de la création, par exemple. Dieu a créé l'univers pour afficher sa gloire, pour dévoiler sa grandeur. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un commentateur de l'Ancien Testament, E.J. Young, écrit ceci: la totalité de la création parle avec des voix claires et positives de la gloire de Dieu. Partout où nous tournons nos regards, nous voyons les traces de sa majesté. Et nous devrions élever nos cœurs pour louer celui qui est saint. Ceci est son monde. C'est son amphithéâtre dans lequel il va afficher toute sa gloire. C'est dans ce commentaire sur Ésaïe. Le but ultime de la création, c'est la gloire de Dieu. Mais le but ultime de la rédemption, du salut, c'est aussi la gloire de Dieu. Dans le salut, dans la rédemption, Dieu va conclure tous les buts qu'il s'était fixés dans la création. C'est pour manifester la gloire de Dieu que Jésus est né, qu'il a vécu dans ce monde, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Vous vous rappelez lors de la naissance, la nuit où Jésus est né, les anges ont chanté dans le ciel, Luc 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts ». La nuit de son arrestation, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prier dans le jardin de Gethsémané de la même manière, Jean 17, verset 1, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». C'est la même chose aussi concernant l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau? Pourquoi est-ce que nous sommes ressuscités? Pourquoi est-ce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes? C'est afin que la gloire de Dieu soit déclarée à toujours dans sa grâce qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. La gloire de Dieu est la raison de notre salut. Mais la deuxième chose que nous pouvons retirer de cela, c'est par rapport à l'expression « dans les siècles à venir ». Je crois que j'ai déjà utilisé cette image d'un musée, où quand on visite un musée, certains musées, on peut voir des tableaux de personnes qui sont connues. Et à l'époque où ces personnes vivaient, elles avaient une certaine importance, et elles étaient aimées, sans doute, par leur famille. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces portraits, on ne va pas chanter les louanges de la personne. On va plutôt chanter la louange de l'artiste. On va admirer le talent, on va admirer le génie, la passion de l'artiste qui a fait cette œuvre. Et ça ressemble un peu à la situation de l'œuvre de Dieu dans le salut. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a commencé cette œuvre de transformation de nous, afin que dans l'éternité, son œuvre soit dévoilée dans la gloire. C'est une réalité déjà présente. C'est une réalité qui existe déjà quand les gens nous voient le changement que Dieu opère dans nos vies. Par la foi en Jésus-Christ, par nos œuvres qui glorifient Dieu. Mais c'est surtout vrai dans le siècle à venir où Dieu sera glorifié dans notre salut. On peut très bien imaginer une conversation entre les anges dans le futur, quand ils verront un pécheur resplendir de la gloire céleste. Ils vont dire, mais est-ce que ce n'était pas un rebelle? Un fils d'Adam? Est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui était corrompu par le péché, coupable de l'offense la plus grande envers Dieu? Mais regardez-le maintenant. Maintenant, il est resplendissant dans ses habits de justice, de la justice de Christ. Il est beau dans la sainteté que l'Esprit de Dieu a rendue parfaite. Il est aimé du Père. Il connaît une intimité avec le Père. Il est un enfant et un héritier de la gloire. C'est dans les siècles à venir que nous allons louer Dieu pour les bénédictions que nous commençons déjà à avoir maintenant, mais que nous verrons dans toute leur splendeur, dans toute leur gloire. Et ici-bas, malgré tous les fardeaux que nous pouvons connaître, malgré toutes les douleurs, malgré la dégradation de nos corps mortels, malgré les tourments, les combats que nous devons mener contre le péché, nous avons suffisamment de raisons pour louer Dieu et pour le remercier. Et imaginez dans les siècles à venir, dans la gloire, avec des corps glorifiés, avec une nature qui est purifiée, une nature qui ne connaît plus le péché, qui n'a plus aucun résidu de mal, avec une joie qui excède de loin toutes les joies qu'on peut connaître ici-bas. Nous allons louer Dieu avec une intensité et une ferveur que nous ne connaissons pas encore. Comme Moïse, sur le rivage de la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui était engloutie, nous allons chanter ce cantique, Exode 15, verset 2, « L'Éternel est ma force ». Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Ici-bas, dans nos vies, nous sommes affligés, nous pouvons trébucher, tomber dans le péché. Même les meilleurs d'entre nous sont loin d'être parfaits en ce qui concerne la foi, la sainteté. Mais tous ceux qui sont unis aujourd'hui à Christ seront un jour rendus parfaits en sainteté, et vont resplendir en reflétant la gloire de Dieu. Voilà un encouragement, voilà une espérance du croyant, voilà ce qu'il va être dans la présence de Dieu, rendu parfait. C'est ce que Dieu a promis. Paul va écrire par exemple dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est pour cela qu'il est important pour nous, si nous sommes unis à Christ déjà maintenant, quels que soient les combats que nous devons mener dans notre pèlerinage sur terre, de réaliser que nous sommes destinés à déclarer la gloire de Dieu pour toujours, jusque dans les siècles à venir, pour l'éternité. Troisième chose à souligner de ce passage, de ce verset, c'est ce qu'il dit au sujet de l'infinie richesse de sa grâce en Jésus-Christ. On a défini la gloire de Dieu comme étant la révélation de la perfection de ses attributs. Et Paul a quelque chose de précis au sujet de Dieu quand il parle du salut. Il dit que notre salut glorifie l'infinie richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dans la création, Dieu a déclaré la gloire de sa puissance, de sa sagesse, de sa beauté. Mais si sa grâce doit être déclarée dans la gloire, alors Dieu doit manifester sa grâce envers nous. Dieu va glorifier ses attributs en les exerçant. Dieu glorifie sa souveraineté en régnant sur toute chose. Il va glorifier sa justice en jugeant tout homme. Et il glorifie sa grâce en sauvant des pécheurs comme nous, qui ne méritons rien si ce n'est sa colère. Et cela nous permet de répondre au moins en partie à la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a permis au péché d'entrer dans ce monde? Bien entendu, Dieu n'est pas l'auteur du péché. La Bible est claire là-dessus. Mais puisque Dieu est omnipotent, puisqu'il peut tout faire, puisqu'il est souverain sur toute chose, l'entrée du péché dans le monde devait être en accord avec son plan, son décret éternel. La question est pourquoi? Paul nous donne une réponse, une partie au moins, en Romains 11, verset 32. « Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Notre verset donne un autre élément de réponse. « Dieu a ordonné que nous soyons sauvés du péché pour déclarer l'infinie richesse de sa grâce en Jésus-Christ. » On a déjà utilisé cette image à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on fait ressortir le brillant d'une pierre précieuse. On va placer la pierre sur un tissu qui est noir, qui est foncé. Et là, l'éclat de la pierre ressort. Et c'est la même chose. Ici, Paul écrit que Dieu glorifie les richesses infinies de sa grâce en Jésus-Christ par notre salut. Quelles sont ces richesses? Il suffit d'aller au chapitre 1er. Au début de ce chapitre, verset 3, Paul dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et il va développer, verset 4, il dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints, irréprochables devant lui. Dieu nous a élus pour que nous recevions sa sainteté, afin de pouvoir entrer dans la présence. On ne peut pas entrer dans la présence sans la sainteté. Dieu nous a élus pour que nous recevions cette sainteté. Verset 5, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous qui étions par nature des enfants de colère, mais il en a élu certains pour qu'ils deviennent ses enfants d'adoption. Verset 7, il parle du sang de Christ qui a été répandu pour notre pardon. Verset 9, il parle de connaître le mystère de sa volonté qui nous est donné dans sa parole. Qu'est-ce qu'on donnerait pour ne pas avoir toutes ces choses? Toutes ces choses nous sont données par grâce, gratuitement. Quand un bijoutier veut estimer la valeur d'une pierre précieuse, il va mettre un verre spécial devant son œil. Et de la même manière, on ne peut apprécier les richesses de la grâce de Dieu que par ce verre de la foi. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous révèle ces richesses, mais c'est la foi dans la parole de Dieu qui fait que ces richesses deviennent réelles pour nous. Si nous avons cette foi, si nous voyons ces richesses que nous avons en Christ, comment est-ce qu'on peut être insatisfait dans cette vie? Certains vont dire, oui, mais je suis pauvre. Oui, mais cette vie est courte. Et bientôt, si nous sommes à Christ, nous allons posséder des richesses éternelles que l'on ne peut même pas compter. Certains vont dire, mais je suis affligé par des tentations. Oui, mais Dieu nous fait grandir, il nous fait croître dans la grâce, et ces tentations auront de moins en moins d'effet sur nous. Dans la gloire, nous serons irréprochables, nous serons purs, sans péché. D'autres vont dire, mais je suis seul dans ce monde, et c'est peut-être vrai. Mais le chrétien peut toujours avoir la communion avec le Créateur de l'univers, parce qu'il a été uni à lui en Christ. Certains d'autres vont dire, mais je suis malade, et cela peut arriver, et parfois c'est très difficile. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'un jour, ce qui est mortel va revêtir l'immortalité. Ce qui est corrompu va revêtir l'incorruptibilité. Et même si nos yeux sont remplis de larmes, nous pouvons toujours nous réjouir à cause de la richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et le dernier point pour terminer, à Dieu seul soit la gloire. Le but de notre salut n'est pas d'enlever nos problèmes, mais de nous donner l'opportunité au milieu de nos problèmes, de glorifier Dieu dans ce monde. Jésus a dit en Matthieu 5, versets 14 et 16, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Tout comme nos yeux ne peuvent pas supporter de regarder directement au soleil, ils ne peuvent que contempler les rayons du soleil qui se reflètent dans les nuages. De la même manière, le pécheur qui ne veut pas regarder à Dieu peut voir la réalité de sa grâce se refléter dans nos vies, dans la vie du croyant, et ainsi découvrir la gloire de Dieu pour lui-même. Comment est-ce que nous glorifions Dieu? Comme le Seigneur Jésus-Christ le dit, nous le glorifions en accomplissant les œuvres qu'il a préparées d'avance, en accomplissant les œuvres en son nom. Nous le glorifions en parlant aux autres de l'amour de Dieu, de l'offre gratuite du salut en Jésus-Christ. mais nous le glorifions aussi par la sainteté qu'il désire voir en nous, en cultivant le fruit de l'Esprit, en ne nous conformant plus à ce monde, mais en étant transformés par le renouvellement de l'intelligence, par la parole. Quel est le fruit de l'Esprit? Vous le connaissez. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu nous a créés pour que nous portions son image. Et c'est par une sainteté qui se conforme au caractère du Seigneur Jésus-Christ que nous glorifions Dieu le plus dans ce monde. Beaucoup de choses nous diffèrent, même en tant que croyants. Mais nous sommes tous unis dans ce même désir de vivre pour la gloire de Dieu dans une vie de sainteté. Et on peut aller plus loin. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement notre but, c'est aussi notre privilège. Et un prédicateur du siècle dernier, Martin Lloyd-Jones, a fait toute une série sur cette lettre, une série de messages sur cette lettre aux Éphésiens. Et sur ce passage, il dit ceci, « Mais quel privilège d'être utilisé par Dieu pour faire valoir son propre caractère éternel et glorieux. Pourquoi est-ce que je fais partie de cela? Pourquoi est-ce qu'un jour, Dieu a posé son regard sur moi? Est-ce qu'on ne ressent pas tout cela? Qui suis-je pour que Dieu pose son regard sur moi, qu'il me choisisse pour que je fasse partie de son plan et de son dessein? » Et puis il dit, mais réfléchissez de cette manière, chrétien, et avancez, avancez vers la gloire. Le jour vient où tout le monde donnera gloire à Dieu. Non seulement au jour du jugement, mais dans l'éternité, les chrétiens, mais aussi les incroyants, vont glorifier Dieu. On dit que le but ultime de Dieu, c'est de glorifier Dieu. Puisque Dieu est tout-puissant, il va accomplir son but. Il va glorifier sa grâce, mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres attributs, il y a d'autres perfections. Dieu est aussi juste, il est aussi saint, et il va glorifier ses attributs dans la condamnation éternelle des pécheurs qui rejettent l'offre de l'Évangile. Un commentateur écrit ceci, « Toute personne qui aura vécu ou qui vivra sur terre doit glorifier Dieu, de manière active ou passive, volontairement ou involontairement, dans le ciel ou en enfer. » Chacun va glorifier Dieu. Soit vous le glorifiez en tant qu'objet de sa miséricorde et de sa gloire qui se verra en vous, soit vous le glorifiez dans votre rébellion et votre incrédulité, en devenant les objets de sa colère et de sa puissance au jour du jugement final. Dans quel camp serons-nous? Voilà la question. Est-ce que nous allons le glorifier dans la sainteté? Est-ce que nous allons glorifier la sainteté de Dieu en enfer? Est-ce que nous allons glorifier sa justice? Ou est-ce que nous allons glorifier sa grâce, sa miséricorde, en nous détournant déjà maintenant de nos péchés, et de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, de vivre pour lui, et de louer les richesses de sa grâce, non seulement aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité? Tout homme va rendre gloire, va glorifier Dieu. Dans quel camp allons-nous nous trouver? Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui glorifient Dieu et qui glorifient sa grâce, son amour et sa miséricorde qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Que cela soit vrai déjà ici-bas et aussi que cela se poursuive jusque dans l'éternité. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous soyons les objets, que nous répondions à son évangile et que nous nous réjouissions dans ce salut et dans ce sauveur merveilleux qu'il nous donne en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.